Matin.
Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Aujourd'hui, ils sont deux. Comme souvent, parfois ils font des pas de côté, mais en général, ils travaillent ensemble. Vous les connaissez évidemment. Éric Giacometti et Jacques Ravenne sont mes invités. Visite de bibliothèque, bien sûr. Nous irons chez l'immortel Jean-Marie Rouard. Et puis, à la fin de l'émission, je réunis toute l'équipe. Libraire, chronique, littérature et bande dessinée pour faire une sorte de mezzé où tout le monde trouvera de quoi lire. Mais d'abord, donc, c'est l'invité, les invités. La Voix est libre, c'est parti, premier chapitre. Et les voilà donc, les deux sont là, et leur nouveau roman aussi, Le Royaume perdu. C'est chez Lattès, un thriller ésotérique, tiens donc. Et les énigmes commencent dès la couverture avec ce signe mystérieux, un serpent qui dessine un 8 et se mord la queue. On ouvre, première page, une reproduction, une sorte de vieux carnet, avec des signes étranges, en tout cas rien de familier. On tourne encore une page, crac, 1229, vallée de la Kadisha, au monastère du bout du monde. Un homme attend dehors, on lui a demandé de guetter le signe. Quel signe? Il n'en sait rien, il n'a rien vu en tout cas. Si éventuellement des colombes qui volaient en formation et qui ont formé une sorte de 8, tiens tiens, mais un 8 horizontal. Enfin, moi je vois des licornes et des dragons dans les nuages. Alors enfin, la porte s'ouvre, il était temps, il y a là les grands anciens. On lui demande de tracer le signe. Il fait avec ce qu'il a et tout le monde change de couleur, effaré de voir ce 8 horizontal. Ils ne seront pas étonnés très longtemps, mais je vous laisse découvrir. Page d'après, de nos jours, en pleine expérience de réalité virtuelle avec un certain Antoine Marcasse, le héros fétiche de Jacques Ravenne et Éric Giacometti. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors le prologue, alors vous les soignez toujours, mais là il donne une bonne gifle d'entrée. Il est magnifique, il est bien soigné, bien fait et tout, on est tout de suite dedans. Est-ce que vous l'écrivez dès le départ, c'est-à-dire que c'est ça ce qui vous donne l'impulsion pour le reste, ou est-ce que vous l'écrivez quasiment à la fin, comme le bon élève en philo qui écrit son introduction à la fin, vous savez?
Le prologue est toujours écrit vers la fin, tout simplement parce qu'il faut une scène choc dès le démarrage et qu'il faut des éléments qui soient rassemblés dans cette scène et qui soient ensuite disséminés dans le texte et qui donnent sens. Donc à la fois, il y a une volonté de lancer l'intrigue. Puis après, il y a une volonté de montrer ce qui est un véritable thriller ésotérique. Le secret, le mystère, mais aussi une certaine forme de violence.
On est tout de suite dedans. C'était Jacques Ravenne qui parlait. Je ne vais pas dire à chaque fois qu'il parle. De toute façon, c'est quasiment la même voix maintenant. C'est imbriqué, justement. Ensuite, on alterne. Donc, trois pages plus loin, on se retrouve de nos jours. Et on alterne ensuite, pendant tout le roman, avec le XIIIe siècle. Pareil, question technique, un peu de forme. Comme ça, est-ce que vous écrivez les deux histoires chacun de votre côté ? Ou ensemble, mais séparément les deux histoires, et ensuite vous les imbriquez, ou est-ce que vous écrivez au fur et à mesure de ce que nous on lit? Éric Giacometti.
En fait, vous savez, je pense que c'est comme l'écriture d'une série, d'un scénario pour une série télé. On bâtit un plan, on a des lignes de narration. Moi, je prends la partie contemporaine, Jacques la partie en l'occurrence médiévale, et on écrit chacun de son côté. On connaît le contenu de chacun des chapitres. Au bout d'un ou deux mois, on se les envoie, on les relit, on les réécrit. À partir de là, tout de suite, on va peut-être réévaluer notre plan. Parce que, tout simplement, quand vous écrivez, vos personnages prennent forme, ils existent dans votre tête. Et un personnage qui aurait pu paraître secondaire, tout d'un coup, va devenir exceptionnel. Et là, on dit à l'autre, écoute, là, on va dévier du plan parce que je le sens bien, ce personnage. Et ça, c'est fantastique, quand on arrive à ce degré, cette alchimie.
Alors, il y a ceux aussi qu'on ne sent pas et qu'on tue préalablement. C'est-à-dire qu'on tue deux fois, le lecteur s'en rend compte à la lecture du livre, puis nous aussi, on fait quelques petits sabrages à l'intérieur du texte.
Jamais aucun scrupule en tuant un personnage?
Alors, entre nous, Jacques adore assassiner les personnes du sexe féminin. Voilà. C'est ce que je peux dire.
Tout simplement parce que Éric répugne à le faire.
Non, mais vous connaissez,
c'est ce que je peux avouer.
L'histoire d'Alexandre Dumas qui est en train d'écrire, il est de dos, son fils entre dans son bureau, le père se retourne, il est en pleurs, et son fils lui dit « qu'est-ce qu'il y a ?» Et dit « J'ai été obligé de tuer Porthos ». C'est pour la toute fin des mousquetaires dans le Vicomte de Bragelonne qui raconte la fin de la vie des mousquetaires. Mais est-ce que parfois vous avez, je fais un petit pas de côté, est-ce que vous avez ce sentiment-là, un peu de tristesse, quand vous devez lâcher un personnage pour les besoins de l'intrigue,
Jacques? Alors des fois, ça peut arriver, effectivement, mais j'avoue que c'est une tristesse assez rare dans la mesure où dans le thriller, je dirais que plus il y a de morts, mieux on se porte.
En 1229, on suit un jeune héros, Hugo de Montfort, qui est un templier. au passage, quand on arrive à ce moment-là, donc la première partie de 1929, on a tout de suite l'ambiance et le bruit. On est à Bethléem, on croise toute une foule étrange et tout ça, mais pas si étrange que ça. Elle est devenue familière quasiment, surtout quand on joue à Assassin's Creed ou qu'on a vu beaucoup de films d'époque comme ça. Hugo de Montfort, c'est un moine soldat, un templier. Aujourd'hui, on est quand même assez bien renseigné sur les Templiers, parce qu'il y a toute une culture, pop culture même, autour des Templiers. Mais est-ce qu'on peut rappeler quand même qui sont les Templiers ?
Alors, les Templiers, c'est à la base un ordre de soldats qui ont formé des vœux de défendre les pèlerins qui vont en Terre Sainte. Mais au fur et à mesure, bien sûr, cet ordre se développe. Il s'intéresse à beaucoup de choses. Il devient de plus en plus riche, de plus en plus puissant, politiquement et financièrement. Et assez rapidement, il attire à la fois les convoitises. Et puis, de temps en temps aussi, il s'oppose à ce qui existe en Terre Sainte. Et parfois, le conflit entre certains groupes est assez, comment dire, violent.
Éric ?
En fait, ce qui est fascinant dans les Templiers, c'est entre la création de l'ordre et la chute de l'ordre en 1314, on est dans la période historique, c'est de l'histoire pure. Mais à partir du 19e siècle, se forge la légende des Templiers avec le trésor, le secret spirituel, la malédiction des Templiers. Alors ça donnera les rois maudits qui ont fait les beaux jours de la télévision française. Mais...
Parce que quand l'ordre est renversé, l'ordre maudit les rois de France pour 5 générations.
Voilà, Jacques de Molay. Alors on a un peu fantasmé là-dessus, on n'a pas les paroles exactes. Non, néanmoins, ce qui est intéressant, et là on va être un peu plus précis, certaines sociétés secrètes ou discrètes, selon Jacques, les francs-maçons, ont intégré les Templiers dans leurs rituels. Et ça, c'est intéressant. Et on a même eu des ordres du Temple maçonnique dès le 19e. Donc, il y a eu toute une récupération de cette légende. Et en particulier, c'est ce qui intervient dans notre livre, du Baphomet, qui est une idole mystérieuse, qui a fait fantasmer, vous savez, ces sortes de boucs ailés qu'on va retrouver. Et ça, c'est intéressant pour nous en tant qu'écrivains, parce que nous, on est des auteurs de fiction, on est dans l'imaginaire. Mais on travaille toujours à partir de quelque chose de réel. Voilà, on travaille sur les légendes, on fantasme là-dessus. Et à partir de là, on apprend quand même 2-3 choses à nos lecteurs, qui sont plutôt sulfureuses parfois.
C'est ce que j'allais dire. Alors les francs-maçons, on va en parler, parce qu'ils sont évidemment encore là. Mais les Templiers, dès le départ... parce que les Templiers, c'est devenu un peu des héros quand même, des personnages positifs. Mais depuis quelques années, on écorne un peu plus le mythe et on les rend un peu plus ambigus. Et dès le départ, dans le premier chapitre 1229, on apprend que les Templiers, ce n'est pas des gentils. Pas forcément des gentils, quoi.
Oh, je pense que ça ne l'a jamais été, tout simplement. En fait, quand on recrée des personnages de Templiers tels qu'ils étaient réellement, ce sont des hommes qui peuvent être frustres, qui peuvent être violents, qui peuvent être intéressés très largement, et qui ont une manière de régler leurs problèmes qui n'appartient qu'à eux, et qui en général se terminent plutôt mal. Donc on est resté pendant très longtemps, à travers la critique historique, sur l'image du malheureux Templier, Jacques de Molay, qui brûle sur son bûcher, le premier, en quelque sorte, procès inique de l'histoire. Mais il y a une antériorité. Les Templiers n'ont pas été ces moines soldats uniquement occupés de biens spirituels, mais très souvent occupés à verser le sang et à se remplir les poches d'or.
Et c'est ça ce qui est fascinant, parce que ce sont des hommes de Dieu quand même, et puis on a quand même des exemples de Templiers qui sont des sortes de saints, même s'ils n'ont pas eu forcément la canonisation. Mais ce que je veux dire, c'est que ça les rend très très intéressants pour ça aussi. Et vous deux, c'est intéressant aussi, parce que vous êtes toujours plongé dans le religieux, tout en assumant une forme de laïcité, voire d'athéisme. Et ça, est-ce que ça vous libère d'une certaine manière pour parler de ces choses-là ? Parce qu'il y a aussi beaucoup de respect pour les religions.
Alors, je pense que la manière dont on traite religion est la manière dont on les concevait à l'époque médiévale. C'est-à-dire que la religion est omniprésente et elle est comme une forêt, mais elle cache certains arbres un peu discrets. C'est-à-dire que la critique de la religion était aussi extrêmement développée et on a tendance à penser que ces croisés qui arrivent en Orient sont des gens qui s'aiment et qui s'entendent. La vérité, c'est qu'ils se haïssent. Le pape déteste l'empereur qui est dans les croisades. Les Templiers détestent l'empereur. Et bientôt, le pape se débarrassera des Templiers. Donc, en fait, il n'y a pas d'homogénéité. C'est toute la patte humaine, en fait, qu'il a en Orient et qu'on essaie de retrouver dans sa diversité.
Et puis là, il y a aussi les musulmans qui sont là et qui... Bon, je ne peux pas tout raconter, mais c'est là où je voulais en venir. C'est qu'il y a toute cette culture religieuse aussi que vous mettez en avant avec tout ce qu'elle a d'historique et de mystérieux. Mais on y revient dans un instant.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est Libre continue avec la musique d'Indiana Jones. Vous avez reconnu, je suis avec Eric Giacometti et Jacques Raven pour Le Royaume Perdu, leur nouveau roman chez Lattès. Je suis désolé les amis, à chaque fois je vous fais le coup d'Indiana Jones, mais on ne peut pas y échapper. Quoi. Moi j'entends la musique pendant toute la lecture du roman, et tant mieux, j'en redemande. Mais aussi parce que vous avez comme Indiana Jones, vous avez un héros récurrent. Et là c'est Antoine Marcas qu'on retrouve. Est-ce que vous le retrouvez avec plaisir?
Oui, parce que c'est notre héros fétiche. Hein.
Ça fait combien
d'aventures? Ça doit faire, on l'a créé. C'est en 2005, la première aventure, Le Rituel de l'Ombre. On l'a laissé de côté pendant 3 ans pour parler de Tristan pendant la Seconde Guerre mondiale. De
son grand-père.
Voilà. En fait, vous savez, quand vous... Non, vous parlez d'Indiana Jones, mais en fait, le ressort d'Indiana Jones, c'est quoi à la base? C'est... Il est à la recherche d'un mystère, d'un secret. C'est ça, en fait. Donc, nous, on a toujours été passionnés par les mystères et les secrets au-delà de l'histoire. Pour nous, quand on va visiter une abbaye, un château, par exemple, on va parler de la commanderie templière de Thomas, où on est allé au Portugal, commanderie mystérieuse, templière et tout. Pour nous, on va là-bas, il y a l'historien qui se met en branle en se disant « Bon, on va parler d'histoire, et quel est le mystère ? Où est-ce qu'on va pouvoir trouver quelque chose derrière une dalle ?» Et c'est ça le secret. Si vous restez trop rationnel, vous êtes à côté de la plaque. Nous, on joue cette carte de dire « Et si c'était vrai ?»
Et un X n'indique jamais l'emplacement du trésor.
Ah.
La dernière croisade, chapitre 12, verset 8.
Absolument.
Justement, c'est aussi un point commun avec Indiana Jones, c'est que souvent, il y a un objet mystérieux historique qui a existé et qui est un peu le moteur de l'intrigue. Et cette fois, vous avez choisi le livre d'Enoch. Alors souvent, il y a le Graal, souvent, il y a, je sais pas moi, l'Arche perdue, enfin, plein que parfois on connaît, ça pourrait être le Saint-Suaire. Bon. Le livre d'Enoch, jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'est que ce livre d'Enoch? J'ai vérifié, ça existe. Mais qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est un texte, ce qu'on appelle apocryphe, c'est-à-dire qui est sacré, qui devrait faire partie du canon de la Bible. Et pourtant, il n'en fait pas partie. Il a été dégagé à la fois par les chrétiens et les juifs. Il s'étale entre moins 700 avant Jésus-Christ et plus 400. Donc, il y a eu plusieurs versions. Et en particulier, on a trouvé une version dans les fameux manuscrits de la Mer Morte. Vous pouvez le trouver sur Internet. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce récit? C'est qu'il est question d'un patriarche qui monte dans les cieux et là, il passe devant Dieu et c'est le seul qui peut regarder Dieu en face. Le seul. Dans toute la Bible, il n'y en a quasiment aucun. Deux, il parle d'une race d'anges déchus qui auraient pris femme et qui auraient donné naissance à des êtres humains hybrides et qui auraient enseigné aux hommes des savoirs perdus, les mathématiques, l'agriculture... Et cette race a été maudite, et c'est pour ça qu'on aurait eu le déluge. Noé est un descendant d'Enoch. Bref, ce texte que n'importe qui peut trouver et qui est véridique dans le sens où il a vraiment été écrit avant le 1er siècle, pose question parce qu'il remet en cause certaines versions à la fois de la chrétienté mais aussi de l'enseignement judaïque. Et aussi, il nous ouvre d'autres portes. Alors, on est toujours à la lisière, vous le disiez, on a la lisière un peu entre légende, religion, réalisme, on ne sait pas trop, on navigue à vue.
Mais souvent, je me suis surpris, mais je ne devrais pas le faire, mais comme c'est mon boulot, j'essaye de le faire quand même, mais si j'étais un lecteur lambda, j'essaierais de vraiment pas le faire, mais à chaque fois, je vais vérifier quand il y a une information ou un truc qui me paraît vrai, je regarde vite fait sur Google, voir si juste ça existe ou si c'est une invention complète. 90% des cas, c'est un truc qui existe vraiment, mais vous en faites autre chose, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que pour le livre d'Enoch, comment vous faites? Est-ce que vous choisissez, vous vous intéressez à ce moment-là au livre d'Enoch et vous vous dites, tiens, je pourrais fonder une histoire à partir de ça, ou alors c'est votre histoire qui vous amène au livre d'Enoch parce que vous avez besoin de tel ou tel instrument pour avancer?
C'est une histoire croisée. Nous, on connaissait ce livre d'Enoch depuis un bon bout de temps, et il se trouve en plus qu'on en fait mention, au patriarche Enoch, dans ce qu'on appelle les rituels, les hauts grades maçonniques. Vous avez un rituel où on parle d'une... Sous le temple de Salomon, il y aurait une pièce secrète, et dans cette pièce secrète, Enoch aurait déposé quelque chose. Bon.
Il n'y avait pas l'arche perdue, l'arche d'alliance aussi,
l'arche d'alliance,
sous le temple de
Salomon. Mais Jacques, toi l'initié.
L'arche d'alliance, elle a déjà été trouvée.
Oui, mais elle n'était pas sous le temple de Salomon aussi?
Alors, il y a eu effectivement un certain nombre de textes qui ont développé cette idée, mais nous, on sait où elle est réellement, mais ça sera pour un autre moment.
Génial. Mais justement, en fait, c'était aussi ce que je voulais dire avec ce livre d'Enoch. Enfin, peut-être qu'il y a eu d'autres romans, je ne suis pas non plus un spécialiste de ce genre-là, mais c'est compliqué peut-être au bout d'un moment de trouver un item, un accessoire qui n'a jamais été utilisé dans un film ou un roman ésotérique.
Alors le livre d'Enoch fait partie un peu des fondamentaux des mystères ésotériques. Prenez par exemple l'église chrétienne, une des plus premières églises chrétiennes au monde et de l'église d'Éthiopie, qui est une église orthodoxe. Mmh. Eh bien, elle est la seule à considérer le livre d'Enoch comme sacré et saint. Et vous avez des exemplaires là-bas, à Addis Abeba et tout.
Mmh. Il en sera question.
Voilà. Et donc, nous, on en avait entendu parler il y a bien une dizaine d'années. On s'était toujours dit, mais à un moment donné, il va falloir faire un roman autour de ça. Donc, on attend. Ça mature jusqu'au moment où c'est bon. Mais vous savez, en termes de mystère, on pourrait en écrire encore 20, franchement. C'est tellement fascinant. C'est un vrai patrimoine, en fait, qu'on nous a légué.
Et en matière de mystère, c'est intéressant parce qu'il y a souvent les francs-maçons, puisque Antoine Marcas, le héros, est lui-même franc-maçon, et Jacques Ravenne aussi. Et il n'y a qu'à se baisser pour trouver des mystères chez les francs-maçons. Et en même temps, c'est une société discrète, où elle a été peut-être secrète, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a tout un mythe et beaucoup de rumeurs autour des francs-maçons, et parfois des peurs, et parfois aussi, on les place en bouc émissaire aussi. Et vous faites partie de ceux qui démystifient un peu ça, dans le quotidien, je veux dire, quand vous parlez de la franc-maçonnerie. Et en même temps, avec vos romans, vous rajoutez un peu du mystère là-dedans.
Oui, l'actualité télescope. Regardez ce qui s'est passé la semaine dernière. Les deux youtubeurs qui sont allés se balader dans un château ont découvert ce temple maçonnique avec des ossements et tout. Enfin, ça a été vu, je ne sais plus combien, de centaines de milliers de fois sur le net. Et à nouveau, les fantasmes ont ressurgi sur la maçonnerie. Voilà. Jacques, tu peux nous donner la vérité?
Mais Jacques, avec les romans, vous faites aussi renaître les fantasmes.
Non, mais ce qui est tout à fait fascinant, et Eric fait bien de citer ce cas-là, effectivement, deux jeunes youtubeurs descendent dans une grotte qui se situe sous un château. On a déjà les éléments clés de quelque chose. Là, à l'intérieur, il y a un temple maçonnique qui a été fait par un médecin qui est décédé depuis. Et puis, il y a quelques éléments des décors maçonniques. Or, nous, quand on lit ça dans la presse, nous, francs-maçons, ce sont des choses d'une grande banalité, qui est un crâne dans les temples maçonniques qu'il y a toujours eu de tous les temps. Ça nous paraît curieux. Mais tout à coup, le lectorat, le grand public se dit « Mon Dieu, il y a des squelettes, il y a peut-être même un scalpel qui traîne, etc. » Et là, la machine s'emballe et on se rend compte en fait que ce qui fascine le plus chez nous, ben, c'est notre goût du merveilleux. En fait, les francs-maçons sont des grands enfants.
Oui, c'est ce que je veux dire, vous les cultivez
nous
aussi.
Nous aimons jouer, nous aimons théâtraliser, nous aimons dramatiser et c'est comme ça que nous avons peut-être une petite lumière différente des autres.
Moi, je ne suis absolument pas d'accord, étant profane, je peux vous dire qu'il raconte des sornettes. Il sait très bien ce qui s'est passé dans ce temple, mais il ne veut pas le dire.
Étant profane, c'est exactement ce que je dirais si j'étais franc-maçon. Mais alors, on n'a même pas commencé le début de la moitié du quart du roman. C'est-à-dire qu'il y a aussi des mathématiques, il y a le nombre infini, il y a tout un tas des influenceuses. Méfiez-vous des influenceuses. On va y revenir dans un instant, mais surtout, je vais vous poser la question. Préparez-vous, parce que en fait, la question principale que j'ai toujours envie de vous poser, c'est que comment vous faites pour intégrer tous ces éléments-là et que ça garde une cohérence? Ça, c'est le grand mystère, le premier mystère peut-être. À tout de suite.
La voix est livre.
Nicolas Caro. La voix est libre, le retour avec Éric Giacometti et Jacques Ravenne pour Le Royaume perdu, leur nouveau roman chez Lattès. On alterne entre 1229 et de nos jours avec l'intelligence artificielle, les algorithmes, les mathématiques très compliquées, la physique quantique et donc de l'autre côté au XIIIe siècle, les Templiers, les coups d'épée, etc. Et puis aussi les mystères anciens. Et je vous pose la question que je voulais vous poser avant la pause, c'est que justement à chaque fois quand je lis vos livres, enfin souvent, et sur celui-ci en particulier, vous partez dans une direction. Et c'est un domaine complètement différent de celui qu'on vient de quitter. On part dans les mathématiques ou la physique quantique alors qu'on était avec les Templiers à Bethléem. Et je me dis, mais jamais ils vont s'en sortir. Et ensuite, c'est les francs-maçons. Et ensuite, c'est ceci. Ensuite, c'est cela. Et Antoine Marcas et sa psychologie. Comment vous faites pour relier les points à la fin, Jacques Ravenne? Est-ce que vous avez des frayeurs?
Non. En fait, c'est, je ne dirais pas que c'est assez simple, mais ça répond en fait à un besoin aussi du lectorat. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un qui va s'intéresser à la physique quantique, ou Templiers, à diverses choses, va trouver que tout ça, finalement, on est un peu perdu dans le monde dans lequel on est. Il y a trop d'informations, trop d'universités. Notre travail à nous, c'est de réunir en fait, des éléments qui sont épars et de leur donner du sens. Mais de leur donner du sens qui a à la fois une valeur scientifique, quand on parle des algorithmes, et aussi qui a une valeur de merveilleux, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir dire « Ah, mais c'était donc ça ».
D'accord, mais comment vous gardez la cohérence pour le récit, pour le roman?
Alors écoutez, je vais vous faire un aveu. Il y a quelques années, on avait écrit un livre... On était vraiment extrêmement satisfaits, et surtout moi, parce que j'avais réussi à recréer l'histoire de l'humanité quasiment de Jésus-Christ jusqu'aux nazis. Donc j'avais vraiment l'impression d'avoir vraiment fait quelque chose de bien. Et quand on relit nos deux parties, on s'aperçoit tout à coup que nous avons un problème, on ne sait pas comment ça va se relier à la fin. Je vous assure qu'on a passé, on était à l'appartement d'Éric à l'époque, quelques heures extrêmement difficiles, et maintenant on sait que la cohérence, on la pense d'abord, on la trouve ensuite.
Éric Giacometti.
Alors, pour Le Royaume perdu, c'est beaucoup plus précis. En fait, d'un côté, vous avez la recherche d'un manuscrit qui a été écrit. Et ce manuscrit, il était quoi ? C'est le manuscrit qui va parler de Dieu. C'est un contact entre un patriarche et Dieu. De nos jours, on parle d'ordinateur quantique. Or, le surnom des ordinateurs quantiques, c'est l'ordinateur de Dieu. Donc, c'était là le point commun. Dieu vu par des Templiers et Dieu vu maintenant par des physiciens. Parce que si vous faites attention, regardez, Alain Aspect a obtenu le prix Nobel pour la recherche quantique, il est français. Tout ce qu'on va, on va vous parler des ordinateurs quantiques, ça va révolutionner complètement, complètement l'intelligence artificielle. Et certains ont même dit, mais est-ce qu'on ne va pas toucher à l'ultime ? Est-ce que ce ne sera pas l'ordinateur de Dieu ? Et ça, il était là le point commun. Après, pour voir exactement quel est ce point commun, il faudra aller jusqu'au bout.
C'est merveilleux parce que c'était la question d'après. C'est-à-dire que souvent, vous nous montrez d'une certaine manière que la quête que l'on mène dans le présent nécessite de recourir au passé. Manière de dire aussi, on n'invente rien finalement. C'est un continuum.
On n'invente rien, mais on redécouvre tout. Et l'idée, effectivement, c'est de représenter ce que le passé a pu nous apporter et combien il se réinscrit dans le présent. Après tout, l'ordinateur quantique, est-ce qu'il est l'ordinateur de Dieu ou est-ce qu'il est l'ordinateur qui va créer Dieu ?
Ou l'ordinateur du diable, en fonction de ce que vous allez en faire. Juste la physique quantique, par exemple, on sait très bien qu'avec un ordinateur quantique, on pourrait théoriquement, si on arrive jusqu'au bout, c'est d'ici 5 ans, hein, juste pour vous dire, la France a consacré 1,8 milliard d'euros à la recherche quantique. Les Chinois, 10 milliards. Oh, ça va très loin, c'est une course contre la montre. On pourra peut-être avoir des solutions positives pour le réchauffement climatique. On aura peut-être des solutions pour trouver des énergies de transition. Ça donne de l'espoir aussi. Mais attention, ça peut aussi, on le sait très bien, nous trouver, créer des armes qui seront destructrices. À côté de la bombe atomique, c'est un pétard mouillé.
Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est, quasiment le dénouement de ce roman, mais on n'en parle pas. Et je vais y aller tout doucement aussi pour cette question-là. C'est celle du royaume perdu et la question de l'utopie qui est développée dans le roman. Qu'est-ce que le royaume perdu ? Pas le nouveau dans le roman, d'une certaine manière, mais celui dont vous vous êtes inspiré.
Alors, c'est une espérance qui a traversé tout le Moyen-Âge et qu'on retrouve ensuite dans les écrits de la Renaissance. C'est-à-dire l'idée que, quelque part, existe un royaume de justice, tel que le pense le christianisme, mais qu'il ne réalise pas, tel que le croit la féodalité et qu'il n'y parvient pas. Et ce royaume, souvent, ça a eu un nom, on l'appelait le royaume du prêtre Jean. On imaginait une personne un petit peu hors du commun, un prince qui aurait été un prince enfin favorable et dans lequel les gens auraient vécu en parfaite harmonie. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'à un certain moment, est arrivée une fausse lettre du prêtre Jean au pape, et le pape a missionné des explorateurs pour retrouver cette terre inconnue. Moi, je reste fondamentalement fasciné, à la fois par le mystère que ça recouvre, mais par le fait qu'on vivait quand même à l'époque médiévale, à des époques où on pouvait croire à cela. Finalement, c'était une époque de folle espérance.
De nos jours, dans le roman, il y a une société, une entreprise qui s'appelle OXO, qui est en fait le signe de l'infini, mais en lettres d'imprimerie, parce qu'il n'est pas sur le clavier le signe de l'infini, qui est donc un 8 horizontal. Et c'est un personnage fondamental que vous développez là, et aussi une manière de critiquer un peu les nouveaux, comme ça, grands dominants du marché, des GAFA, qui développent un marketing de fou, qui se servent aussi des réseaux sociaux et des influenceurs ou des influenceuses. C'était aussi une manière de dire ça.
Oui, l'idée, c'est
que... Parce que c'est une puissance énorme, il y a une forme de critique aussi de ces grandes personnalités qui incarnent ces entreprises.
Par exemple, Elon Musk. Alors moi, ce qui est très amusant, c'est que je suis aussi scénariste de Largo Winch. Et le dernier Largo Winch, vous avez un personnage là, Elon Musk. Et pareil, et quand je travaillais à un moment donné, j'ai basculé sur le roman, j'avais en tête ce magnat, donc on l'a transformé, c'est devenu une femme, Lena Khazar. Mais oui, regardez de nos jours le pouvoir d'un Elon Musk. Que pèse notre président de la République face à un Elon Musk ? Au-delà de tout le respect que je peux avoir pour la fonction et l'homme. Mais on voit bien, les gens sentent bien que le pouvoir, mais je dirais le véritable pouvoir, c'est-à-dire financier, économique, il est passé dans le privé. Et ça, c'est fascinant pour des auteurs de fiction. Et je pense même que, plus tard, à mon avis, des confrères ou des consoeurs vont aller beaucoup plus loin là-dessus.
Avec toujours beaucoup d'ambiguïté, comme tous les personnages. Sinon, ce n'est pas intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des diables non plus. Ils ont des bons côtés aussi. Et puis souvent aussi une bonne intention.
Oui, parce qu'on sait très bien, alors de nos jours, dans la fiction, regardez même dans les James Bond, par exemple, le dernier, le méchant, il veut sauver aussi quelque part la Terre. Même dans les, prenez les Marvel et les Avengers, Thanos détruit la moitié de l'humanité uniquement pour sauver les autres.
Voilà, c'est ça.
Donc on est arrivé dans une époque où même les méchants ont une part de transparence, ont une part de justice. Ça, c'est très intéressant. On sort du manichéisme, en fait.
Et alors, pour boucler la boucle, il faut quand même qu'on dise un mot de ce qui est essentiel, c'est le signe infini, qui est donc le 8 horizontal. Est-ce qu'on sait d'où ça vient, ce signe-là? Est-ce que ce que vous en dites dans le roman, tout est vrai ou pas? Et pourquoi vous avez choisi ce signe-là? Ce qui est un signe fascinant, c'est un signe, juste un 8 horizontal, on a l'impression de contempler l'infini simplement en regardant ce signe.
Alors, la signification de l'infini, vous l'avez, c'est tout bête. C'est ce qu'on appelle le ruban de Moebius. Vous prenez un ruban, au lieu de l'attacher par le même côté, vous l'attachez par un autre côté. Vous faites un 8, c'est-à-dire que constamment, vous allez vous tourner comme ça, vous changez de face à perpétuité éternellement. Pour les mathématiciens, c'est le symbole de l'infini, mais pensez juste à une chose. L'infini, c'est quelque chose qu'on ne peut pas appréhender. On ne peut même pas se représenter. On se dit, s'il y a quelque chose après, qu'est-ce qu'il va y avoir après?
Bon. C'est un vertige.
C'est un vertige. Et donc, on touche au divin. Et c'est là où on est à la jonction entre la religion et la science. Et ça, c'est fascinant.
L'infini, c'est très long, surtout vers la fin. Ils disent l'éternité, c'est Woody Allen. Cette citation, j'ai voulu la caser. Le royaume perdu, c'est chez Lattès. Merci beaucoup, Jacques Ravenne et Éric Giacometti.
Merci.
Et on se retrouve dans un instant pour visiter la bibliothèque de Jean-Marie Roire, l'immortel.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, l'heure de visiter une bibliothèque. L'académicien Jean-Marie Roire a publié beaucoup, beaucoup de livres et de romans, mais aussi beaucoup de livres consacrés à l'affaire Omar Radad. Son dernier en date s'appelle « La fabrication d'une injustice » chez Bouquin. C'était l'occasion de visiter ses livres. Bonjour Jean-Marie Roire.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez vous. Juste avant de commencer, là, Olivier Duval, l'ingénieur du son, vous a demandé un test micro. Et vous êtes parti dans une récitation, mais on ne l'a pas capté, puisque c'était juste un test. Est-ce que vous pouvez nous la refaire? C'était très beau.
Voici des fruits, des fleurs et des branches. Et puis voici mon cœur, qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches, et qu'à vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux. C'est de Verlaine.
Magnifique. Et c'est vrai, c'est étonnant, mais quand on demande les tests micro, souvent, on a le droit à des poèmes comme ça. Est-ce que ça fait partie des poèmes que vous récitez quand on vous demande un test micro en général ou c'était aujourd'hui comme
ça ? Écoutez, non, parce que la poésie fait partie de ma vie, mais je dirais la poésie en général, c'est-à-dire pas seulement les poèmes. Pour moi, le roman, c'est de la poésie. D'une certaine façon, l'histoire que j'aime, c'est de la poésie. La peinture, qui a une certaine place ici, c'est de la poésie. L'art, c'est de la poésie. J'appelle poésie tout ce qui nous détache de la médiocrité du réel. Voilà. Nous avons une vie réelle qui, je trouve, pour tout le monde, surtout pour moi d'ailleurs, est souvent très médiocre. On est emprisonné comme consommateur dans les notes du gaz, de l'électricité, les impôts, les tas d'embêtements et les conversations parfois très, très médiocres. Donc, je trouve que c'est le contrepoison, l'antidote, c'est l'art. Et tout ce qui nous élève au-dessus de nous-mêmes et nous permet de nous arracher à cette terrible tyrannie de la réalité.
C'est décaler le regard pour regarder la vie autrement et en faire de la poésie. Et ça marche éventuellement avec une facture de gaz, si on veut d'ailleurs. On peut réussir à le faire.
Vous savez, ce qu'il y a de merveilleux dans la littérature, regardez comme Balzac, qui est celui qui a sans doute le plus parlé des questions financières, de combien gagnent les gens, quelles sont leurs rentes. Et ça devient poétique. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que tout peut devenir de la littérature. C'est un regard plus élevé, un regard intelligent et qui donne un sens aux choses.
Alors, je décris quand même l'endroit où nous nous trouvons. Nous sommes chez vous, dans un appartement. Il y a des tableaux au mur. Alors, j'ai jamais vu ça parce que tous les tableaux, en fait, couvrent tous les murs. Ils sont tous resserrés. Avec comme ça des natures mortes sur un des murs, des portraits sur un autre. Et puis là, on est dans un petit bureau qui doit faire quoi? Allez, 15 mètres carrés. Et c'est exactement ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire qu'on n'en voit plus tellement des comme ça, mais il y a un bureau au milieu de cette petite pièce de 15 mètres carrés, un fauteuil sur la gauche, et puis tout autour, c'est des bibliothèques remplies de livres. Et le bureau en question, je le sais parce que je suis à côté et j'ai pu regarder en dessous, mais en fait, il est recouvert d'une montagne de livres. Est-ce qu'il y a un classement particulier ou est-ce que vous avez abandonné l'idée de ranger vos livres ?
J'ai complètement abandonné. Et j'étais obligé d'acheter une maison en Corse pour mettre le surplus de mes livres.
J'ai été obligé d'acheter une maison en Corse, elle est pas mal celle-là.
Parce que le commissionnaire m'a dit, vous savez, et je lui ai dit que ça coûte combien ? Il m'a dit, oh c'est simple, c'est 2 tonnes exactement. Donc vous voyez, ici, on a l'impression qu'il y a beaucoup de livres, mais ces livres, ce sont ma passion. C'est
vous
ma passion.
Vous avez mis 2 tonnes de livres dans votre maison secondaire.
Oui.
2 tonnes.
Oui. Mais si vous voulez, je veux pas. Donc, je dis 2 tonnes. C'est
pas
amusant.
Une quantité, c'est amusant, mais enfin, c'est un conteneur.
Mais ça correspond tellement à ce que je suis. Moi, je tente d'être un écrivain. J'essaie d'écrire des livres. Mais je suis surtout et d'abord, et c'est très lié, un lecteur, un admirateur de la littérature, un homme qui ne vit au fond que pour cette passion. Voilà, depuis toujours. Donc, c'est pas étonnant que j'ai beaucoup de livres, d'autant plus que j'avais un grand-père qui était éditeur, donc j'étais déjà prédisposé. Et en ce qui concerne les tableaux, j'avais un père peintre et 2 arrière-grands-pères qui étaient également peintres. Donc vous voyez, tout ça, ça s'explique. Mais en dépit de tout ça, je suis très différent d'eux parce que au fond, moi, j'ai choisi cette voie littéraire qui était plutôt marginale par rapport à la voie de la peinture.
Mais quel type de livre, en fait ? Est-ce que c'est l'objet livre en lui-même, peu importe le livre ? Ou est-ce que c'est les essais, j'en vois quelques-uns ? Ou est-ce que c'est les romans, j'en vois énormément ?
Écoutez, c'est tout. C'est tout, parce que vraiment, vous savez, je suis un miraculé de la culture générale. Miraculé, puisque j'étais complètement nul en classe. Ah. J'étais d'une nullité mais tellement effrayante que j'ai raté mon bac. J'étais obligé de le passer à 5 reprises. Il faut dire que c'était le bac d'autrefois. C'était le bac d'aujourd'hui, je crois que j'aurais eu une mention. Mais c'est le bac d'autrefois qui était très difficile.
Trompez-vous.
Oh, non, je crois
c'est encore autre chose.
J'avais choisi latin et grec. Et j'étais complètement nul en classe. J'ai enfin eu mon bac. Ensuite, j'ai raté ma première année de droit. J'ai raté ma première année de lettres. Et j'ai été sauvé par cet amour fou des livres. Des livres, de la littérature, de l'histoire. Mais disons, c'est pas pour le livre en soi. Et je me bats contre cette idée. Je ne suis pas pour défendre le livre. Je défends la littérature, je défends l'art, ce qui est complètement différent.
Le contenu. Mais alors, j'en reviens à ma question. Comment vous trouvez un livre ? Est-ce que vous savez où se trouve chacun de vos livres ? Ou alors, non, parfois, vous l'avez racheté 3 fois parce que,
Vous évoquez mon drame. C'est que je rachète souvent des livres que j'ai. Je ne sais pas où il a pu disparaître parce que quelquefois, il était enfoui. Mais enfin, il y en a certains qui sont rangés parce que je les lis assez souvent ou bien parce que, disons, j'ai une affection et un caractère sentimental vis-à-vis de ces livres. Donc, mais autrement, ils sont vraiment dans le désordre, qui est le désordre peut-être de mon état mental. Je suis un peu dans la confusion.
Mais parce que je n'ai pas tout décrit. Donc, il y a tout un tas de livres sur le bureau. On ne voit plus le bureau. Il y a des bibliothèques sur les côtés, dans cette petite pièce. Mais il y a aussi des monticules un peu partout, des petites collines de livres qui s'effondrent ici et là. Il y en a même sur la... Tiens, il y a une chaise derrière le bureau. Il y a encore des livres dessus. C'est très compliqué. Est-ce qu'il y a... En fait, on a l'impression qu'il y a une sorte de pelleteuse qui est arrivée avec le chargement de livres, qui a tout mis dans le bureau et tout le reste de l'appartement est nickel. Et là, c'est une sorte de jungle de pages. Mais là, je vois des livres anciens bien rangés sur la bibliothèque. Anciens, je ne sais pas, mais enfin, des vieilles éditions, beaucoup de Gallimard. Est-ce que vous avez une perle, enfin, quelque chose de très précieux, comme ça, dédicacé par un géant ou est-ce que vous êtes bibliophile, en fait ? C'est ça, ma question.
Non, je suis... J'ai un attachement pour certains livres en fonction de certains auteurs. Par exemple, j'ai, dans une autre bibliothèque, j'ai le Paul Jean Toulet, j'ai sa correspondance, toute sa correspondance, qui a été qui est insérée à l'intérieur d'un livre. Donc, ce sont des manuscrits. Mais disons, j'adore, on m'a donné des manuscrits. J'ai des manuscrits de Barrès, j'ai des manuscrits.
Ah oui.
J'ai même un manuscrit de Gracq, un manuscrit de Mallarmé.
Ah oui.
Mais Mais si vous voulez, mais c'est dans les lettres qui m'a adressé Grac ou Lévi-Strauss, vous voyez, parce que...
Un manuscrit, une lettre, oui, manuscrite, oui, une lettre, pas... Oui, oui. Pas un manuscrit inédit que vous gardez sous le coude.
Non, mais j'ai pu, par exemple, j'ai demandé à Cheng, que j'aime beaucoup, que j'admire, de me donner un de ses manuscrits. Mais enfin, vous voyez, je suis pas, c'est pas ma religion, c'est pas disons l'apparence des choses, même si je suis capable d'aimer un manuscrit. Mais les livres dédicacés me touchent, mais me touchent sentimentalement. Par exemple, vous voyez, j'ai toute l'œuvre de Jean d'Ormesson. Ici, oui.
Je voulais vous en parler.
Qui est avec des dédicaces, y compris son Pléiade. Son Pléiade, c'est très rare d'avoir un livre de la Pléiade avec une dédicace. Parce qu'en général, les gens sont morts. Oui. Et lui était vivant. Et il m'a fait une dédicace. Mais à côté de lui.
C'était quoi votre lien avec Jean d'Ormesson ?
Oh, mon lien est très, très ancien, parce que je l'ai connu quand j'avais 18 ans. Et puis, il m'a soutenu toujours pour écrire. Il a été absolument adorable avec moi. Et puis, on avait une relation pleine d'amusement. On était, si vous voulez, je crois que ce qui nous unissait, c'était la passion de la littérature et un caractère adolescent. Il était, comme moi, adolescent, donc on riait énormément, on s'est beaucoup amusé.
Ah, il y a des vieilles notes dans un vieux Jean d'Ormesson qui s'appelle « Au revoir et merci ». Il y a « Dieu, sa vie, son œuvre » aussi, quel titre génial, quoi.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'il était, il était comme on l'imagine quand on le regarde à la télé, Jean d'Ormesson. Moi, je l'ai rencontré que deux ou trois fois comme ça, je l'ai croisé. Mais c'est vrai que c'était un type réellement très gentil, quoi.
Oh, d'une gentillesse extrême et très drôle. Très drôle. Alors, un jour, je vais vous raconter une anecdote. On était, c'est d'ailleurs une dernière fois que je suis allé chez lui avant sa mort en Corse. Il regardait le Figaro Magazine. Et dans le Figaro Magazine, on racontait, il y avait un article de Michel de Gégère qui disait que Aragon et Drieux-La Rochelle, un soir à Biarritz, avaient couché ensemble.
Oula.
Et il se tourne vers moi et me dit, Jean-Marie, tu crois que dans 50 ans, les gens diront qu'on a couché ensemble ? Je dis, mais Jean, on le dit déjà. Comment on le dit déjà ?
Et alors, la vérité ?
La vérité, c'est que nous sommes adorés, nous sommes aimés, mais nous n'avons jamais couché ensemble.
Il y a beaucoup, 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 beaucoup de Paul Morand aussi.
Oui, qui sont associés. Vous... Parce que j'ai essayé de mettre... Vous voyez, c'est des gens que j'admire, que ce soit Paul Morand, d'Ormesson. J'ai mis Déon à côté de Paul Morand. Voilà, mais parce que j'ai très bien connu Michel Léon aussi, très, très, très jeune, je l'ai connu en 69. Oui. Donc, je les ai mis ensemble, j'ai mis aussi Félicien Marceau dans ce coin.
Vous nous parlez un peu de Paul Morand, vous nous donnez envie de le lire ou de le relire ?
Écoutez, je suis très divisé sur Paul Morand parce que c'est sûr que l'homme n'était pas très agréable, il était très égoïste, il était très réactionnaire dans le mauvais sens du terme, mais en même temps, c'est un sublime écrivain. Et vous savez, j'essaie de dégager, d'ailleurs, juste en dessous, vous avez Aragon, et je détachais les œuvres des écrivains de leur conduite politique. Et un peu à côté, vous avez Drieux-La Rochelle, d'ailleurs, que j'aime beaucoup aussi.
Qui est de l'autre côté du spectre par rapport à Aragon.
Voilà, exactement. Mais qui était en même temps ami d'Aragon. C'est ça qui est extraordinaire. Et je crois que quand on aime la littérature, je crois que la première chose à faire, c'est essayer de se débarrasser des questions politiques, de se dire que la politique sépare, tandis que la littérature peut réunir les hommes sur ce qu'ils ont de meilleur.
Je vois une compilation de textes érotiques d'Anaïs Nin derrière vous. J'ai vu caché derrière les Paul Morand un Pierre Louis.
Ah non, il n'est pas caché. Non, non.
Il n'est pas caché, mais enfin, non. Il est dans la rangée derrière. Quoi.
Oui, mais il y a deux rangées.
C'est sans doute involontaire. Mais...
Non, je ne cache rien, parce que ça serait cacher les choses à moi-même. Alors, ça serait vraiment idiot, parce que je n'ai pas du tout l'espèce de scrupule.
Je vous parle de ça parce que l'érotisme dans la littérature, c'est extrêmement compliqué.
Oui, mais moi, je ne suis pas un amateur, je vais vous dire. Je crois qu'en matière littéraire, ce qui est important, ce n'est pas la description, notamment en matière érotique, ce n'est pas la description, c'est la suggestion. Voilà. Ce qui m'excite le plus, c'est dans Le Rouge et le Noir, vous savez, au moment où Julien Sorel escalade pour retrouver sa maîtresse sur une échelle, il arrive dans la chambre de sa maîtresse, et là, il y a deux lignes de petits points. C'est tout ce qu'on sait de la nuit qu'ils vont passer ensemble. Mmh. Et bien moi, c'est chaque petit point, je me suis interrogé, je vivais chaque petit point intensément. Alors que quand vous décrivez les scènes d'amour, les corps qui s'embrassent, qui s'étreignent, tout le reste, on connaît, on a une petite habitude.
Et souvent, on échoue à le faire. D'ailleurs, il y a un prix chaque année qui récompense la pire scène de sexe de littérature. Ah oui. Et c'est très facile à trouver, en fait, parce que c'est extrêmement compliqué.
Vous savez, en littérature, tout est difficile. tout est difficile parce qu'il faut être très simple. Et en même temps, je pense que ce qui rend les choses belles, c'est une forme de suggestion, que ce soit le lecteur lui-même qui refasse la scène qu'on lui propose de décrire.
Je vois quelques portraits. Là, il y a Baudelaire. Vous en connaissez des par cœur, des passages ou pas ?
De
poèmes de Baudelaire.
Les poèmes de Baudelaire. Attendez, mon enfant, ma sœur, songe à la douceur. Enfin, voilà. Non, mais il y a
pas beaucoup. Vous êtes pas, vous n'avez pas une encyclopédie mentale de poèmes que vous apprenez par cœur. Vous préférez retourner les lire pour les retrouver. Vous faites partie de ces gens qui veulent absolument engranger plein de poèmes pour les ressortir comme ça,
oui,
pour pouvoir les réciter quand on flâne.
Il y en a un que j'aime beaucoup, qui est de Pierre Louis. Pierre Louis, c'est un. Alors vous avez retenu l'ère ottomane, mais aussi un très très grand poète. Plus tard, où ma beauté, quand d'autres nuits auront passé sur vous, qui ne m'attendrez plus, que d'autres, amis aux mains légères, toucheront vos pieds nus. Souvenez-vous qu'un soir, couchés sur notre couche, nous avons échangé de la bouche à la bouche la perle impérissable où dort le souvenir.
Il revient toujours au lit quand même.
Il revient au lit, mais c'est plus le lit.
Mais parce que jugement, attention.
C'est tellement élevé, c'est tellement spirituel. Je dirais c'est presque une messe, une première communion. Vous voyez, c'est là où vraiment la poésie nous écarte du prosaïque et nous écarte des choses. Voilà, on est grâce à l'art, on est soulevé au-dessus de nous-mêmes.
J'ai compris et je savais qu'un peu que vous aviez une forme de rapport spirituel au livre et au roman. Est-ce que c'est aussi un rapport religieux en ce sens que, est-ce que vous avez des rituels comme ça ? Est-ce que tous les matins, vous avez vous devez lire quelques pages d'un tel, tous les soirs d'un autre ?
Absolument pas.
Est-ce que vous caressez la tranche des livres ?
Absolument pas. Je ne fais pas. Ce n'est pas comme une prière que je ferais tous les matins.
Voilà, c'était ça
la question. Mais c'est permanent. C'est-à-dire, je suis tellement imprégné par les livres que, d'ailleurs, mes amis me reprochent souvent de faire beaucoup trop de citations. Et je suis tellement habité par cette passion que, non, je n'ai aucun rituel. D'ailleurs, et même quand j'écris, vous savez, il y a des écrivains qui ont besoin, comme Proust, de tendre les murs de Liège. Moi, j'écris n'importe où, n'importe comment, dans ma cuisine ou sur la table de la salle à manger. Ça m'est complètement égal, avec un crayon, avec un stylo bille ou un stylo à plume. Bon, tout ça, ça n'a pas pour moi d'importance. Ce qui est important, c'est de transmettre la vision qui est la mienne.
Juste un dernier mot, il faut qu'on en parle quand même. Je m'attendais aussi à ça, mais il y a une sorte de bibliothèque consacrée à Omar Radad, l'affaire Omar Radad, parce qu'on ne le sait pas toujours, mais bon, c'est aussi pour ça qu'on est venu, c'est à cette occasion, vous sortez un nouveau livre sur cette affaire, et c'est la grande affaire de votre vie, enfin, ça vous a suivi depuis 30 ans, en fait.
30 ans, oui.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler le départ de comment vous êtes arrivé là-dedans et votre rapport à Omar Radad aujourd'hui et tous ces livres qui sont là, consacrés à l'affaire, écrits par vous ou par d'autres, voilà.
Écoutez, franchement, je me serais tout à fait passé de me lancer dans la défense de ce malheureux accusé. Mais il y a 30 ans, en effet, j'ai découvert ce fait divers, dès le début, avec cette fameuse phrase « Omar m'a tué ». Voilà.
Incroyablement
et tout
romanesque.
De suite, oui, j'ai eu le sentiment, alors là, comme écrivain, que c'était du bidon. En train de mourir, vous n'allez pas écrire, faire des phrases avec des apostrophes. Non, vous allez essayer de vous en sortir. Voilà. Et puis, 15 jours plus tard, je voyais que les médecins légistes avaient donc fait une description du corps martyrisé de Mme Marshall, où elle avait un traumatisme crânien, le foie perforé, une éventration. Bon, elle était dans l'incapacité de faire cette inscription qui dénonçait Omar Radad. Donc, dès ce moment-là, je me suis passionné pour cette affaire. Je pensais qu'il aurait un non-lieu, je pensais qu'il serait acquitté. Ce n'était pas le cas. Donc, j'étais à ce moment-là directeur du Figaro littéraire et j'ai écrit des articles, 6 articles, puis d'autres dans Le Monde. Voilà. Et ça a été le début de mon engagement. J'ai écrit un livre, j'ai créé un comité de défense. Et depuis ce moment, je n'ai jamais cessé de croire dans son innocence. Et vous savez, ce combat, finalement, est plus large que celui d'un innocent. Et lui-même, d'ailleurs, l'a très bien défini. Il a dit « Roire ne m'a pas défendu, il a défendu la justice, il a défendu la France ». Ben, c'est exactement le sens de mon combat depuis 30 ans.
Merci beaucoup Jean-Marie Roire.
Merci.
Et je rappelle, « La fabrication d'une injustice », c'est le nouveau livre de Jean-Marie Roire. C'est chez Bouquin. Dans un instant, encore des livres lus et approuvés. L'équipe de chroniqueurs me rejoint. À tout de suite.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
Dernier chapitre, épilogue de La Voix est libre avec Sébastien Bordenave. Pour la bande dessinée, Clémence Pouletti, journaliste littéraire, et notre libraire de la semaine, Thibaut Raden. De l'incroyable librairie L'Écriture à Vaucresson. Bonjour à tous les trois.
Bonjour, bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Ben, on commence avec vous, Thibaut. Un roman. Oh, bah tiens, un roman japonais. Bah, c'est bizarre ça, Thibaut Raden.
Je fais encore dans l'originalité.
C'est pas votre habitude ça.
Alors ça s'appelle Les Manuscrits Ninja et c'est de Futaro Yamada. C'est chez Pique et Poche. Et c'est un livre de 942 pages. Sauf que ça se lit comme un livre de 162 pages. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, je me suis dit. Je ne vais peut-être pas dormir, finalement.
La relativité du nombre de pages.
Exactement. Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un roman de KPDP. Et donc là, je me suis dit, allez, un petit japonais de KPDP en 1642, c'est tout ce que j'aime. Et je ne savais pas à quel point j'avais raison, parce que quel plaisir immense de lecture. Alors, l'histoire, le livre est écrit en 1958, hein, c'est vieux. Mais l'histoire, j'ai l'impression que le gars, il l'a écrit il y a 2 ans, en fait. Et qu'il s'est fait un petit kiff et qu'il s'est dit, moi, je suis un homme, mais j'ai bien envie... de m'amuser avec des personnages féminins un peu énervés. Le livre s'ouvre sur une procession d'une centaine de personnes et dedans, il y a 7 guerriers. Ces 7 guerriers-là traînent tout un tas de bonzes, attachés les uns aux autres avec des cordes aux mains, aux pieds et au cou. C'est assez violent comme bouquin. Parce que s'il y en a un qui tombe, tout le monde s'étrangle. C'est super.
Ah oui.
Et en fait, ils
les
sont
bonzes,
là
c'est des moines, c'est ça.
Oui, c'est ça. Et ils sont là pour aller se faire exécuter à la capitale, à Edo, parce qu'ils ont manqué de respect au seigneur, à leur seigneur.
Ah oui, mais...
Alors, on apprend très vite qu'ils ne sont pas vraiment moines, mais qu'ils se sont fait moines pour échapper à ça. Mais bah, apparemment, ça n'a pas suffi. Et en fait, les sept gardes du corps, les 7 samouraïs, leur disent « Bon, bah, on va vous faire une petite faveur. On va passer par un endroit, un temple qui n'est que pour les femmes, interdit aux hommes, pour que vous disiez au revoir à vos femmes. » Heureux, sont heureux, ouais, c'est super. C'est pas comme ça qu'ils réagissent, évidemment.
Ils ont l'air très heureux qu'ils
voilà. C'est super.
Il y a un petit côté où ils peuvent mourir sainement, parce qu'ils ont vu leur femme, fille et sœur. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en fait, ces 7 samouraïs sont des 7 psychopathes et qui vont massacrer les femmes devant les hommes. Je ne dis pas comment, mais 7 autres femmes vont survivre. On s'attend tout de suite, on le sait, oui. Elles vont vouloir se venger. Et c'est les 800 autres
D'accord.
pages, cette
oh.
vengeance. Mais quelle vengeance jubilatoire. Parce que elles sont pas, eux, ils sont incroyables. Hein, c'est des mecs...
Eux, c'est les méchants, en fait.
Voilà. Et puis, ouais, c'est le bien contre le mal. C'est aussi simple. Mais c'est hyper bien fait. Et ça fait 20 ans en plus même qu'ils sont guerriers. Donc, des petites meufs qui ont à peine appris l'art du combat. Pff, voilà. Sauf qu'elles sont beaucoup plus subtiles et intelligentes que eux. Et c'est là où tout est l'intérêt du bouquin. C'est cette vengeance. Et cette vengeance, elle va vraiment, mais jusqu'à la fin... C'est génial, c'est surprenant. Alors c'est très violent parfois, mais c'est de la violence un peu magique parce qu'il y a des mecs qui ont des pouvoirs, il y a des filets de cheveux qui sont indestructibles mais qui vous coupent un peu dans tous les sens. Enfin bref.
Il y a un côté Tarantino, non ?
Oui, plutôt Takeshi Miike quand même.
Mais à cause de Kill Bill, vous dites ça ? Oui. À cause du
Notamment,
katana ?
Notamment, bah, à chaque fois.
Alors, oui, mais bon, Tarantino a pioché un petit peu partout ses références. Je dirais plus Takeshi Miike, ou c'est un peu n'importe quoi, mais c'est du n'importe quoi construit.
Vous nous rappelez le titre ?
Les Manuscrits Ninja de Yamada Futaro.
Et tant qu'on y est, vous nous rappelez le titre de votre classique japonais préféré ?
Que vous n'avez toujours pas lu,
toujours
c'est ça ?
Pas.
La Pierre et le sabre de Eiji Yoshikawa.
Parfait. Merci beaucoup, Thibaut Raden, Clémence Pouletti. Mais j'ai trop de livres à lire.
Ouais, je vous le ramènerai.
Clémence Pouletti, c'est à vous.
Oui, c'est à moi. Dites-moi, les garçons, est-ce que vous aimez les tours de magie ?
Oui,
oui.
Bah, on aime ça que si on en voit un maintenant, sinon on n'aime pas.
Alors, à la radio, visuellement, ça va être très compliqué, donc je vais vous en parler plus d'un autre. Imaginez donc que je vous amène à un spectacle de magie, puisque vous aimez tout ça.
Ouais.
Et puis, sur scène, le magicien, il dit « Bah alors, qui veut être mon cobaye pour le prochain numéro ?» Et moi, je lève la main et il me choisit. Et je vais sur scène, il me fait traverser un miroir, déjà c'est magnifique, tout le monde est content. Et puis, il me fait disparaître à tout jamais. Et là, tout le monde est moins content. Non, merci. J'attendais que quelqu'un lise, mais non. Non, non, non. Et alors, c'est l'histoire du narrateur de Le Cirque, un livre de Jonas Carlsson, un écrivain suédois, qui est traduit par Rémi Cassaigne et publié chez Actes Sud en ce mois de novembre 2022. C'est un livre que j'ai dévoré, que j'adore. Le narrateur, donc, il va au cirque avec Magnus, son ami, il disparaît, et puis sur le coup, il se dit, bon, bah, pas cool. Il a dû rencontrer quelqu'un en coulisses, il est en train de papoter, ou bien il est rentré chez lui. Donc je vais faire de même, et je verrai demain ce qu'il en est. Je lui demanderai des comptes demain. Le lendemain, il l'appelle, son copain Magnus, et son copain Magnus ne répond pas au téléphone. Il aurait donc réellement disparu. Sauf que, bah, on le sait bien, la magie, ça n'existe pas.
Il est triste, hein, votre monde.
Et donc, il va partir à la recherche de son ami Magnus, qui ne répond pas au téléphone, qui n'est plus chez lui, qui ne voit plus. Et là, en fait, le roman va prendre un tout autre sens, un tout autre... Il va être plus plongé dans ce qu'on appelle le thriller psychologique, mais vraiment, j'insiste sur le psychologique. On est plongé dans les souvenirs d'enfance du narrateur. On va voir à quel point il devient fou de ne pas voir son ami, de ne pas le retrouver. Mmh.
Et à la fin, il retrouve ou...
Comme si je voulais vous dire la fin. Mais la fin, elle est géniale. Mais je ne veux rien dire. Le livre, il fait à peine 200 pages. On le lit d'un coup. Il est super. Et je tiens à dire une petite chose, si j'ai le temps, sur Jonas Carlsson.
Bien sûr.
Il a notamment publié La facture en 2015. Mmh. Oui. J'adore ce roman. C'est l'histoire en une phrase d'un type qui se réveille un matin avec une facture de 600 000 euros. Pourquoi ? Parce que l'État a soudainement décidé de taxer le bonheur.
Et il faut payer.
Il faut payer, littéralement.
C'était super ce roman, effectivement. Et donc ça, c'est Le Cirque.
Le Cirque.
C'est chez Actes Sud, c'est
chez
bien
Actes
ça ?
Chez Actes Sud, traduit par Rémi Cassen, de Jonas Carlsson.
Merci beaucoup Clémence. Et on termine avec les bandes dessinées de Sébastien Bordenave qui ont l'air encore très très
oui,
belles.
Oui, aujourd'hui de la belle BD, en veux-tu ?
Voilà,
c'était pour voir si vous suiviez. Une BD de Jean-Pierre Gibras, un monument discret mais une référence dans le monde de la BD. Il a fêté cette année ses 50 ans de carrière quand même. Il a commencé dans le magazine Pilote, il est passé par Fluide Glaciale, par la caricature de presse. Il a sorti une trentaine d'albums et là, il sort le sixième et dernier tome de Matteo, une saga historique commencée en 2008. Vous pouvez commencer par celui-là, mais franchement, c'est peut-être mieux de les prendre dans l'ordre. Ça raconte les aventures de Matteo, fils d'un anarchiste espagnol. Il est anti-militariste, pas de bol. Il va vivre les tranchées de la Première Guerre mondiale, la révolution bolchevique, la guerre civile espagnole de 1936. Là, on est en 39-40. Jean-Pierre Gibras, c'est de la BD impressionnante. On est ému à chaque page tournée, tellement les dessins sont soignés, les dialogues ciselés et l'histoire façonnée. Jean-Pierre Gibras, sa force, c'est les couleurs. C'est aussi la lumière, sa force, comme on dit au cinéma. Mais là, on peut le dire aussi pour Gibras, tout passe par la lumière. Si vous aimez la belle BD, lisez Matteo de Gibras. Mais si vous aimez vraiment la belle BD, bah, vous connaissiez déjà Gibras. Là, deuxième BD, c'est un ovni. Alors là, c'est parfois, quand on découvre un auteur, un dessin, une bande dessinée, on se dit, ça, c'est de la BD jeunesse, ça, c'est un peu trash. Là, en voilà une qui désobéit à tous les codes. C'est L'Ombrique de Patrick Pion et Mathieu Sapin. Mathieu Sapin, on le connaît, c'est le couteau suisse de la BD française, capable de produire des albums de reportages sur les présidentielles, comme de faire des histoires complètement loufoques. Et Patrick Pion, il propose des dessins dignes des plus beaux contes pour enfants, sauf que c'est super trash. Ne vous attachez pas à ce petit poussin qui va de naître, il va se faire gober. Évitez d'avoir des sentiments pour cette mignonne petite grenouille, elle va se faire empaler à la page suivante. C'est une sorte de conte animalier mi-férique, mi-génocidaire à la sauce Game of Thrones, super déroutant, super bien dessiné. Ça rentre dans aucune case, sauf celle du plaisir de lire. Donc n'hésitez pas, c'est L'Ombrique aux éditions Soleil, une BD qui va vous marquer. Vous l'avez lu,
je crois. Ouais, Thibaut qui donne de l'huile. Ouais.
Pour le coup, j'ai plus tendance à dire c'est un conte macabre. C'est hyper violent. j'ai rien compris le personnage principal. On dirait un petit Sylvain de Miyazaki dans La Princesse Mononoke.
Oui, oui.
Une petite balade, super. Et puis d'un coup, la grenouille qui meurt.
Et c'est quoi votre magazine ?
J'en profite pour vous citer un magazine qui vient de sortir qui s'appelle Otaku Manga. 20, c'est le numéro 1, 20 mangas présentés, des tutos dessins pour faire des visages manga, des recettes pour cuisiner des nouilles udon. L'actualité des webtoons, les BD qu'on peut lire que sur l'iPhone, l'iPad. D'accord. Voilà, c'est très bien fait, ça s'appelle Okatu Manga, c'est le numéro 1. Voilà,
vous allez bien vous entendre avec Thibaut Raden, vous.
Oui, ouais, bah, je
vous
le retenez, Thibaut.
Merci beaucoup.
Football et manga, il y a Olivier Tom.
Oui, exactement.
Ouais, mais il y a Lady Oscar aussi. Et ça, c'est la classe.
Citation.
Oui, j'ai une citation d'un personnage britannique de conte pour enfants illustré né en 1926. Une citation de Winnie l'ourson et Porcinet. Porcinet dit « Quel jour sommes-nous ? » Winnie répond « Aujourd'hui ». Le petit cochon dit « Ah, bah tant mieux, c'est mon jour préféré. »
Ah, magnifique.
Alors ça, c'est mignon. Un peu conte macabre, j'aime bien.
Clémence, vous nous rappelez le titre de votre livre ?
Le Cirque, de Jonas Carlsson.
Chez Actes Sud et Thibaut Raden.
Les manuscrits ninja de Futalo Yamada, chez Piqué.
Merci à tous les trois. Thibaut,
On vous retrouve à la librairie L'écriture de Vaucresson et vous passez le bonjour aussi à Anne Burzinski, votre collègue et notre amie ici. Et Clémence Pouletti, on vous retrouve sur YouTube avec vos chroniques littéraires. Et je rappelle nos invités, c'était Jacques Ravenne, Éric Giacometti pour Le Royaume perdu chez Lattès. Merci beaucoup Agnès Vaudin pour la préparation de cette émission, Grégory Delpeche pour la programmation musicale. Et à la réalisation, Boris Paczynski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. Dans un instant, Didier Barbelivien. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.